5 jours plus tard, au moment du coucher du soleil, j'étais à l'avant à tribord pour le regarder descendre à l'horizon, et je vis très distinctement un point vert foncé devant le disque rouge. Rien de plus inattendu en cet endroit et en ce moment. C'était un navire, une pauvre coque, comme je pus m'en rendre compte en l'approchant. Il n'avait plus de mât et regorgeait d'eau. Des restes de gréement flottaient sur son pont, son bout dehors était cassé par le milieu. On aurait dit un buisson d'algues et de coquillages, de la proue à la poupe. Il avait l'air d'un hérisson attendant la prochaine raclée de la mer pour sombrer. Comme c'était l'heure de mon dîner, je stoppai le Speranza à 100 mètres de cette épave. En arpentant ma large poupe, comme j'avais l'habitude de le faire avant mes repas, je ne cessais de la regarder en me demandant qui avait vécu sur ce navire, les noms des marins, leur état d'esprit, leurs habitudes, leur visage. J'eus bientôt envie d'aller l'examiner de plus près. J'ôtai ma robe, j'enlevai la bâche du canot de cèdre, la seule embarcation qui me restait avec la péniche à moteur, et je la mis à l'eau avec le palan de misaine. Idée absurde, car, ayant atteint l'épave à la rame, l'impossibilité d'escalader le pavois me rendit furieux, bien que sa coque fût enfoncée sous l'eau. Si je pouvais facilement l'atteindre avec les mains, je ne rencontrais aucune prise pour me tenir sur cette masse visqueuse, sauf 3 bouts de cordage, mais je ne pus les saisir tant ils étaient gluants. Je m'écroulai presque dans le canot, mes vêtements étaient dégoûtants de saleté, et ma première idée fut d'envoyer en enfer cette coque pourrie avec une charge de fulmicoton dont j'étais bien approvisionné. Finalement, je revins au Speranza, pris un bout de filin et retournai à l'épave. Je n'acceptais pas d'être défié de cette manière, malgré la nuit venue, à peine éclairée par une demi-lune, et bien que j'eusse faim. Mais de minute en minute, ma colère grandissait. À force de lancer mon amarre, je parvins à la faire passer autour d'un tronçon de mât, et put me hisser à bord en m'entaillant la main sur je ne sais quel infernal coquillage. Pourquoi tout cela? Un caprice irrésistible. À la lumière pâle de la lune, je vis un pont assez vaste, à moitié caché sous une couche d'algues putrides. Il n'y avait pas de cadavres, rien que des algues. C'était un voilier de 3 000 tonneaux environ, un trois-mâts. En allant à l'arrière, chaussé d'épaisses babouches, je vis qu'il ne restait plus que 4 marches à l'échelle du carré. Mais d'un bond, je sautai dans cette désolation. La vieille puanteur marine s'y alliait à un froid écœurant. Je fus pris par une sorte de respect spectral, craignant que l'épave ne s'enfonçât dans l'eau avec moi, m'attendant à n'importe quoi. Cependant, en frottant des allumettes, je découvris un carré ordinaire, plein de champignons, de crânes, d'os, de chiffons, mais pas un seul squelette intact. Dans le second poste à tribord, il y avait une table, et sur le plancher, un encrier dont le roulement continuel m'obligea à regarder par terre. Je remarquai alors un cahier de brouillon à couverture noire, à moitié entr'ouvert et gondolé par l'humidité. Je le ramassai et le rapportai à bord du Speranza. Cette coque pourrie n'était qu'un néant de puanteur et de déjection. Elle avait pris l'aspect des bas-fonds avec lesquels elle était, pour ainsi dire, mariée. Bientôt, elle retournerait au néant de la mer, comme moi, je retournerais un jour au néant de la terre. Pendant et après le dîner, je lus le cahier. Non sans difficulté, car il était écrit en français, à la plume et d'une encre décolorée. C'était le journal d'un passager explorateur, d'après ce que j'en pus juger, appelé Albert Tissu. Le trois-mâts s'appelait la Marie Meyer. Le récit n'offrait rien de remarquable. C'était une suite de descriptions des spectacles des mers du Sud, de records de température, de chargement de marchandises jusqu'à la dernière page, mais celle-ci était d'un intérêt palpitant. Elle était datée du 12 avril, chose étrange, car le même jour, 20 ans plus tôt, j'atteignais le pôle. L'écriture paraissait beaucoup moins soignée que celle des pages précédentes. Elle témoignait d'une excitation fébrile, d'une hâte déréglée. Elle portait en tête 5 heures de l'après-midi. On lisait « Un événement monstrueux, un phénomène sans précédent, ce témoignage doit demeurer immortel dans les annales de l'univers. Maman et Juliette pourront dire désormais que j'avais raison d'entreprendre ce voyage. » Je bavardais avec le capitaine Tombarelle sur l'arrière, quand soudain je l'entendis murmurer « Mon Dieu !» Son visage avait pâli d'un coup. Je suivis la direction de son regard vers l'est et j'ai vu, à quelques kilomètres peut-être au large, j'aperçus une dizaine de trombes d'eau qui s'élançaient en l'air, très haut, et se tenaient sur une même ligne, chacune très régulièrement à 900 mètres d'intervalle. Elles ne vagabondaient pas, ni n'ondulaient comme les trombes habituelles. Elles n'avaient pas la forme d'un calice comme les jets d'eau. Elles ressemblaient à des piliers liquides qui se torsadaient par endroits et pouvaient bien mesurer 50 mètres de diamètre. Nous les contemplâmes pendant 6 minutes et le capitaine Tombarelle ne cessait de répéter à mi-voix « Mon Dieu, mon Dieu !» Tout l'équipage était sur le pont. Brusquement, tout se transforma. On ne vit plus les colonnes d'eau, bien qu'elles n'aient pas disparu, mais l'océan bouillonna autour d'elles en faisant siffler une vapeur s'élevant plus haut que les colonnes et s'étendant en une nappe immense. Le sifflement, malgré la distance, nous parvint très distinctement. C'était effrayant, c'était intolérable. Les yeux pouvaient à peine voir, les oreilles à peine entendre. On eût dit un travail hors nature, un accouchement monstrueux. Mais cela ne dura pas longtemps. Immédiatement, la Marie Meyer se mit à tanguer et à rouler, car la mer, jusque-là tranquille, devint mauvaise. Au même moment, à travers la vapeur blanche, nous découvrîmes une ombre qui s'éleva, une éminence lointaine, une terre nouveau-née projetant au ciel des flammes de feu. Lentement, tranquillement, elle sortit de la mer et alla rejoindre les nuages. Au moment où cette émergence sublime s'arrêta ou sembla s'arrêter dans son ascension, une pensée m'accapara. Moi, Albert Tissu, je passerai à la postérité. Je descendis dans ma cabine pour écrire cela. Nous sommes par 16 degrés 21 minutes 13 secondes de latitude sud et 176 degrés 58 minutes 19 secondes de longitude ouest. On court sur le pont. Je sens une odeur d'amande. Il fait très sombre tout à coup. Voilà ce qu'écrivait Albert Tissu. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces parages. Au fond de cette mer gît un continent englouti. J'ai l'impression qu'il va ressurgir, apparaître à mes yeux et me plonger dans je ne sais quelle frénésie, car la terre est agitée par ses contorsions, ses grimaces monstrueuses, ses apparitions qui, pareilles à celles du visage de la Gorgone, peut transformer un homme en pierre. Et rien n'est plus effroyablement menacé que la vie sur une planète. Je remontai au nord et ne m'arrêtai qu'aux Philippines, où je restai 2 semaines. C'est un pays luxuriant, plein d'odeurs délicieuses, mais si escarpé et si primitif que j'abandonnais l'idée de le parcourir en auto. Je la laissais, non loin d'une rivière large et bruyante, dans une vallée entourée de rochers couverts de mousse. Voilà, me disais-je, un lieu où l'on peut vivre en paix. Mais plus tard, je m'affolais, car au bout de 3 jours, je ne savais plus comment retrouver la rivière et l'auto, et je me désespérais en pensant « Comment pourrais-je jamais me diriger à travers ces jungles immenses ?» Il n'y avait pas un seul sentier. J'étais perdu au plus profond d'une contrée où les pièges de la nature sont trop puissants pour un homme solitaire. Dans un pareil endroit, j'ai l'impression qu'un homme peut être rapidement transformé en arbre, en serpent ou en chat. À ma grande joie, je finis cependant par retrouver la vallée, mais pour dissimuler ma satisfaction, j'attaquais une roue de la voiture à grands coups de pied. Ces 2 années de vagabondage ont pris fin. Ce fut une sorte de rêve, et pour ne rien écrire de tout cela, je n'ai repris la plume qu'après 17 longues, très longues années. C'est étrange la répugnance que j'éprouve à noter ces choses sur le papier. Je veux maintenant raconter mon voyage en Chine, comment j'ai débarqué ma voiture sur le quai de Tientsin, comment, de là, je me suis rendu à Pékin en longeant un fleuve à travers un paysage de maïs et de riz, charmant malgré le froid. Mais j'étais revêtu d'épais vêtements comme un voyageur polaire. Je dirai ensuite qu'en 2 semaines, il y eut 3 tremblements de terre et que la carte de Pékin en ma possession ne donnait aucune indication sur les emplacements de ces entrepôts militaires. Je dus les chercher au hasard. Une fois découvert, il me fallut 3 jours d'effort pour parvenir à y entrer, car chaque porte était solidement cadenassée. J'incendiai la ville, mais pour voir les flammes, je dus me retirer au-delà des murs, car toute la région n'est qu'une effroyable plaine. Je hurlai des plaisanteries et des provocations à l'adresse de ce vieux Chinois qui devait être en vie dans cette ville. Ensuite, je fis connaissance avec les Ainos chevelus, les femmes et les hommes ayant la même chevelure. Un soir à minuit, à bord du Speranza, je reposais sur ma couchette sans pouvoir dormir. C'était dans un port à l'eau transparente, abrité par une falaise couverte d'une verdure qui retombait en grappe sur ses flancs, le port de Chemulpo. Bien éveillé, une idée me traversa l'esprit. Et si tu entendais maintenant des pas aller et venir sur la poupe au-dessus de ta tête? Ce fut une nuit terrible, car je ne pouvais m'empêcher de faire cette supposition. Une fois, je crus même entendre réellement ces pas, et la sueur perla de tous mes pores. Je partis pour Nagasaki et la détruisis. Puis je traversai l'océan Pacifique en route pour San Francisco, car je savais que des Chinois avaient aussi habité dans cette ville et que l'un d'eux pouvait être encore en vie. Un jour de grand calme, le 15 ou le 16 avril, au milieu du Pacifique, j'étais assis à côté de la barre quand, soudain, je remarquai un tourbillon blanc sur la mer, un simple trou de vrille qui courait et virevoltait en venant vers moi, puis s'en allait et revenait de la même manière. Je compris qu'il s'agissait d'un souffle d'air chaud ou tout simplement du vent chaud lui-même qui tourbillonnait à grande vitesse en fredonnant l'hymne des maelstroms. Le Speranza était par le travers, les vagues s'écrasaient sur le pont par-dessus son bordage de tribord. Moi, j'étais par terre, contre le couronnement, complètement trempé et démoralisé. Mais tout passa vite, et le trou de vrille dans la mer et les spirales du vent s'enfuirent en tourbillonnant vers l'horizon. Le Speranza se rétablit et reprit sa course. « C'est donc que quelqu'un veut faire quelque chose pour moi, me dis-je, car je ne pense pas qu'un typhon d'une telle violence ait jamais soufflé. » Je mis le feu à San Francisco et y pris un très vif plaisir. J'avais pensé un moment gagner New York par le chemin de fer transcontinental, mais je ne mis pas ce projet à exécution, pour ne pas abandonner le Speranza, craignant que tous les navires du port de New York ne soient inutilisables ou essombrés. Comment je revins ? Je ne pensais plus qu'à méditer sur la nature et ses caprices, et je songeais à retrouver les paysages secrets des Philippines, à m'y établir, à devenir un sycomore, un serpent, ou un personnage avec des membres de reptiles, comme les naturels de Saturne. Finalement, j'abandonnais toutes ces idées. Le ciel est dans les hommes, le ciel est la terre. Pendant mon voyage de retour vers l'ouest, un nouvel hiver survint. J'étais dans un état de dépression indicible, au bord de l'abîme de l'insanité et de l'idiotie totale. Je m'arrêtai à Java pour visiter le temple de Borobudur. Ce spectacle produisit une révélation dans mon esprit, et l'état de mon esprit en fut transformé. Les études que j'avais faites avant de bâtir mon palais sur l'architecture des différents temples me revinrent en mémoire avec un renouveau d'intérêt. Je dormis dans le temple même 5 jours de suite. Je l'étudiai avec attention pendant la journée. C'est une construction massive, comme la plupart des temples mongols. D'après mes calculs, il avait à peu près 200 mètres de large. Il était haut de 6 étages en terrasse. Chacune d'elles était divisée en un nombre considérable de niches, dans chacune desquelles on voyait une statuette de Bouddha assis. Les voluptueuses broderies de pierre qui la décoraient étaient d'une délicatesse merveilleuse. L'ensemble était surmonté d'un fouillis de coupoles et couronné par un grand dagope. J'eus hâte de rentrer chez moi après cette trouvaille et une si longue randonnée pour bâtir le temple des temples qui témoignerait de ma foi en Dieu. Sauf quelques jours passés en Égypte, je ne fis aucune escale pendant ce voyage de retour. Et j'arrivai dans le petit port d'Imbros, au coucher du soleil, le 7 mars, selon mes calculs. J'amarrai le Speranza à l'anneau du petit quai, puis je sortis de la cale mon auto accidenté à l'aide du treuil à moteur. Car pendant le typhon que j'essuyais au milieu du Pacifique, la voiture rompit ses amarres et culbuta roue en l'air à bâbord. Cela fait, je pris la rue du village sans fenêtre, puis je montai la côte au milieu des plantains et des cyprès familiers, des mimosas du Nil, des mûriers, des palmiers de Trébizonde, des pins, des acacias et des figuiers. J'allai jusqu'à ce que les alliés m'empêchent d'avancer davantage, car après 2 ans, le chemin avait définitivement disparu. Je dus donc me tailler un passage à travers les ronces pour arriver au pont de bois. Je m'accoudai un moment pour regarder couler le ruisseau. Je repartis en m'ouvrant un sentier dans l'herbe pour gagner le tertre ondulé que j'avais édifié non sans peine. À mi-chemin, je vis l'extrémité du bras de la grue, puis le sommet flamboyant du pilier, le toit du hangar et la terrasse dont la tache lumineuse et moirée scintillait devant les yeux au soleil couchant. Mais ma tente et tout ce qu'elle contenait n'était plus là. Je ne fis rien pendant 2 jours que me promener et regarder de ci de là, renâclant devant une tache bien lourde. Enfin, le 3e jour, je me mis péniblement au travail. Mais au bout 1 heure, je fus pris d'un grand zèle. Il fallait terminer, il fallait terminer. Et, sauf 3 brefs intervalles, je ne m'arrêtai pas pendant près de 7 ans. Il ne fallait pas si longtemps pour en finir, mais j'eus des difficultés inattendues pour rendre étanches les 4 toits plats, et je dus démolir la moitié de celui qui donne du côté ouest. Finalement, je les recouvris de dalles d'or épaisses de 30 mm. Sur chaque poutre, de chaque côté de la saillie du toit, je fixai des doubles gouttières pour drainer l'eau jusqu'aux joints qui sont garnis de ciment. Les ardoises sont maintenues le long du toit par des crochets d'acier. Des chevilles sont fixées par du plâtre de Paris dans des trous percés dans les plaques d'ardoises. Les toits sont légèrement en pente sur les bords, où l'écoulement se fait par des gouttières de cuivre plaqué d'or, attachés par des crochets plaqués eux aussi en saillie d'un côté. Je radote encore à propos de ce travail d'esclave que je voudrais tant oublier. Mais je ne peux pas. Chaque mesure prise, chaque boulon, chaque cintre demeure dans mon passé comme une obsession. Mais c'est le passé, et c'était pure vanité.